Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Un grand plaisir de vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. C'est Marianne Paquette derrière le micro et vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Depuis maintenant près de 20 ans, les Jeux FADOC font bouger chaque année à peu près un petit peu plus de 15 000 personnes. C'est beaucoup de monde, ça. Et il faut le mentionner, le souligner, ce sont des gens qui ont 50 ans et plus et qui participent à peu près à une dizaine de disciplines. On parle ici de tennis, de balle molle, de volley-ball, de golf. Certains le font, bien sûr, par plaisir, pour l'envie de bouger, l'envie de participer, mais d'autres aussi souhaitent compétitionner de façon un petit peu plus sérieuse. Et on en parlera en deuxième partie d'émission avec la coordonnatrice des activités sportives et en développement du réseau FADOC, Geneviève Paquette. Aussi vous dire que d'ici, et on en a parlé souvent dans le cadre de l'émission, tout l'apport des proches aidants à notre société. Et je vous rappelle que, bon, d'ici 2030, on estime qu'au Québec, il y a une personne sur quatre qui sera considérée comme proche aidante. Des alliés qui sont certes précieux, qui sont essentiels, oui, pour la société, pour les familles aussi, pour la santé des familles, la structure, conserver une certaine structure familiale. Un rôle aussi qui est exigeant, et ce, sur plusieurs angles. Et comme souvent mentionné, toujours dans le cadre de cette émission, c'est surtout exigeant parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. On apprend à être proche aidant et il y a aussi souvent peu ou pas de ressources. Aussi, d'autre part, l'une des réflexions, des observations que j'ai pu entendre souvent, c'est que le plus grand danger qui guette un proche aidant, c'est cet oubli qu'il a de soi-même, l'oubli qu'il a de ses propres besoins, parce qu'il y a cet aidé qui arrive avec des besoins qui sont souvent très lourds, très urgents, des angoisses aussi, de la douleur qui est chronique parfois, et la mort, bien sûr, hein, des situations de fin de vie. Donc aujourd'hui, comment on peut apprivoiser notre maladie, la fin de vie qui est imminente, la mort donc, et comment aussi accompagner un proche qui vit avec cette épreuve-là? J'en parle avec France Cardinal Rémette et également Louise Lefebvre. Mesdames, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là. Ben, d'une part, pour France qui est ici en studio et Louise Lefebvre, on vous joint du côté de Tremblant.
Oui.
Il fait beau du côté du Mont-Tremblant comme à Montréal.
C'est magnifique. Une journée ensoleillée, plus de 18 degrés.
Oh, vous êtes gâtée par là. Louise, vous êtes à Mont-Tremblant parce que l'organisme pour lequel vous travaillez, c'est-à-dire Paliaco, s'y trouve. Vous êtes coordonnatrice des services et Paliaco ben, s'occupe de tenter d'améliorer la qualité de vie des personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont également atteintes d'une maladie assez grave pour être en fin de vie et également s'occupe des proches aidants et des gens qui sont en deuil.
Tout à fait. On est partout sur le territoire de la MRC des Laurentides, c'est-à-dire dans 20 municipalités autour de Sainte-Agathe et de Mont-Tremblant.
France Cardinal Rémette, vous êtes l'auteur de ce livre qui est paru récemment aux éditions Multimonde, « Quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants ». Vous avez également été gestionnaire dans le milieu de la santé, autant dans des CLSC, des centres d'hébergement, et puis chargée de cours en sciences infirmières. Vous avez été infirmière aussi. Et pourtant, lorsqu'est venu le temps d'accompagner votre mère, vous étiez proche aidante de votre mère, vous avez été confrontée à des difficultés. Est-ce que le désir d'écrire ce livre-là vient du constat d'avoir de la difficulté à l'accès des soins pour votre mère?
Entre autres, oui. Il y a une partie qui venait vraiment d'un désir personnel. Je faisais des constats à ce moment-là. Je me disais, la population n'est pas au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui existe, les ressources, etc. Comment faire son chemin à travers tout ce dédale là, dans le réseau de la santé? Moi-même, je suis censée être une experte. J'ai été gestionnaire dans un CLSC, comme vous dites, et j'ai frappé des murs à certains moments donnés. Et c'était, oui, un grand vœu de vraiment renseigner. Puis il y a tout l'aspect, évidemment, professionnel. Je suis infirmière, j'enseigne à des jeunes infirmières. J'avais cet intérêt aussi qui partait de ce... Mais de cette responsabilité professionnelle.
Oui, finalement. Et ça se dégage beaucoup dans votre livre « Quand la vie se fragilise » parce qu'il est très pratico-pratique. On parle, oui, de résilience, mais on parle aussi de l'approche d'un tout petit qui est confronté à une maladie, comment on en parle avec un enfant. Aussi tout ce qui est soins de santé, parce que quand on est proche aidant, on devient aussi un soignant, des fois malgré nous, et il y a des choses avec lesquelles on ne sait pas trop comment se dépatouiller.
Exactement. C'était ma préoccupation première. C'était vraiment d'aller rejoindre tous les aspects qui peuvent survenir lorsqu'on est face à une expérience de maladie, mm-hmm. tant pour la personne qui la vit que pour l'aidant.
Oui. Louise Lefebvre, quand les gens arrivent chez Palliaco, qu'ils cognent à votre porte, ils sont dans quel état? Est-ce qu'ils ont été référés par un expert de la santé, par leur médecin, ou ils sont en quête de cette aide qu'ils n'arrivaient pas à trouver?
Je vous dirais les deux. Alors, on travaille main dans la main avec le réseau de la santé. On est comme dans le continuum de services. Alors, ce qu'on offre, nous, c'est de l'accompagnement fait par des bénévoles qui sont formés. Mm-hmm. Alors, on offre une présence, une écoute surtout, parce que on parle de personnes beaucoup malades, mais on doit s'intéresser beaucoup au proche aidant qui vit une situation souvent aussi difficile, sinon plus, que la personne malade, parce qu'il est face à son impuissance d'aider. Donc, on ne peut pas sortir l'autre de sa maladie. Alors, on ne peut être qu'avec. Alors, c'est pour ça qu'on offre même une formation pour les proches aidants. Comment on accompagne un aidé?
Oui. Comment, et je m'adresse à vous deux, comment on peut concilier, d'une part, les besoins de l'aidé et les besoins du proche aidant? Comment ça peut se faire de façon réaliste?
En tout cas, pour notre part, dans notre formation pour les proches aidants, ce qu'on prône, faut d'abord prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin de l'autre. Alors, c'est d'abord d'établir nos limites, d'être clair avec ce que je suis prêt à faire et ce que je ne peux pas faire. Parce que, vous savez, souvent, on rencontre des proches aidants qui sont plus malades que leur personne aidée ouais. initialement. Alors, il faut d'abord apprendre à reconnaître qu'on est un proche aidant, première difficulté, et deuxième, mettre ses limites.
Oui. Et là, vous ne la voyez pas, Louise, mais France, ici, elle hoche de la tête et elle semble assez d'accord avec vous.
Mmh. Oui, je suis d'accord avec vous. Et aussi, l'importance de ne pas s'isoler, je pense que c'est un autre élément fort important, et de se raccrocher à tout son réseau. Alors, quand je parle du réseau naturel, la famille, les amis, les voisins, les proches, et aussi le réseau du système de santé. Il y a souvent des équipes de soins qui accompagnent une infirmière liaison. Être sûr qu'on a le nom d'une infirmière à qui on peut se rapporter là, quand on a un problème, avec qui communiquer quand une difficulté surgit, quand l'état de santé évolue, pas dans le sens qu'on voudrait, entre autres.
Ouais, ouais. Vous parlez aussi dans le livre, France, de la résilience. Ça, c'est un mot que l'on entend souvent. J'imagine qu'on en a de besoin beaucoup lorsque l'on vit ce genre d'épreuve. Est-ce que ça se développe, la résilience?
D'après mes lectures, oui, ça peut se développer. C'est souvent inné. Ça part, souvent, ça va se développer à partir de l'enfance. Alors, mais il y a des personnes qui vont être plus résilientes que d'autres. Ça, c'est prouvé par les études, hein? Mais on peut quand même travailler sur soi-même et le développer. Alors, la résilience, c'est cette capacité de rebondir. Alors, comment le développer, comment rebondir? C'est peut-être justement en se créant un réseau qui va nous supporter. Alors, ces gens-là peuvent nous aider, nous accompagner, et ça va favoriser une meilleure résilience.
Mmh. Dans les besoins, je reviens aux besoins, il y a les besoins du proche aidant, il y a ce répit aussi, celui d'avoir une pause, et c'est ce que vous offrez aussi du côté de Palliaco. Est-ce que les personnes, ils ont ce besoin-là, mais est-ce qu'il y a une facilité de faire confiance et de laisser aller et de dire, ben moi, je suis toujours là, habituellement, j'ai le contrôle, mais là, je peux abandonner et laisser un petit peu à quelqu'un d'autre pour s'en occuper?
C'est sûr que le proche aidant emmène large, comme on dit, et a de la difficulté à accepter qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de répit. Alors, oui, il y a une difficulté à ce niveau-là, mais chaque fois qu'on rentre dans une maison, les gens nous disent « Ah, pourquoi j'ai pas fait appel avant? » Alors, nous, on dit toujours, dès le diagnostic d'une maladie grave, le réseau de soutien devrait déjà commencer à être mis en place pour que le proche aidant puisse se sentir soutenu tout au long de la maladie, tout au long du moment où il accompagne la personne, l'être cher qui est malade, le proche aidant a besoin aussi d'être soutenu et dès le départ, qu'il ait des moments de répit parce qu'il n'est pas seulement qu'un proche aidant, il est d'abord lui-même à part entière.
Vous parliez de diagnostic grave lorsque l'on reçoit ce genre de nouvelles et ça, vous l'abordez, France, dans le livre, parce qu'il faut bien le mentionner, être clair, le livre s'adresse aux proches aidants, mais aussi aux personnes qui vivent un épisode de maladie et qui se dirigent vers la fin de vie. On fait quoi quand on reçoit un diagnostic?
C'est sûr qu'il y a une période de désarroi. Moi, je me souviens, je peux peut-être vous parler d'une expérience que j'ai vécue. J'accompagnais justement ma mère à l'hôpital Royal Victoria et on était dans les chambres d'essayage. Puis une dame qui est sortie puis qui m'a regardée puis qui m'a dit « Je viens d'apprendre toute une nouvelle. » Là, je l'ai regardée puis je me suis dit « Il faut que je lui donne espoir à cette dame-là. » Alors, je lui ai dit « Avez-vous quelqu'un... » que vous, autour de vous, avez-vous des ressources? Oui, j'ai un mari, puis j'ai des enfants qui sont très près de moi. Mais j'ai dit, ça va être important d'être avec eux et d'en parler avec eux. Alors, je pense que face au désarroi, c'est tout d'abord, là, c'est d'essayer de trouver des moyens de susciter l'espoir en soi. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle, mais ça peut évoluer positivement. Il y a tellement de découvertes au niveau médical. Alors, après ma barre, il ne faut pas paniquer. Puis aussi, il faut se questionner, prendre un temps d'arrêt puis se demander qu'est-ce que je veux pour moi. Si ça évolue pas dans le sens que je veux, est-ce que je veux de l'acharnement thérapeutique ou au contraire, au bout de la route, est-ce que je veux du confort, de la sécurité puis me raccrocher à ma famille? Parce qu'on dit qu'en fin de vie, ce qui est le plus important, c'est les semaines les plus importantes avec la famille. Souvent, il y a des conflits qui vont se dénouer. Il y a des rapports, des gens vont se rapprocher entre eux. Alors, je pense qu'il faut, il faut prendre des temps d'arrêt, réfléchir, se questionner, puis aller de l'avant par la suite.
Il y a aussi... Oui, allez-y, Louise.
Quand on parle de diagnostic, nous, Payaco, nous sommes aussi à la clinique d'oncologie à l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe parce qu'on sait que c'est un endroit où est-ce que la personne reçoit l'annonce que maintenant les traitements curatifs sont terminés et qu'on est rendu en phase palliative. C'est un moment difficile. Alors, moi, je parle comme madame que l'espoir, c'est vraiment important. L'espoir, ça fait vivre. Mais on ne parle pas nécessairement de l'espoir de survivre, parce qu'on va tous mourir de toute façon. Mais garder l'espoir qu'on peut vivre pleinement jusqu'au bout. Ouais. Au bout, on ne sait pas à quel moment ça va être, mais de vivre sa maladie et vivre pendant qu'on est, que même lorsqu'on a des traitements, tout ça. Et peut-être aussi l'aspect positif de vivre dans l'espoir qu'on va finir, on va avoir une belle fin de vie, qu'on va régler. On va faire des pardons, on va se pardonner des choses. Alors, ça aussi, c'est un espoir de bien vivre jusqu'au bout.
Oui. Je veux parler de cette phase palliative parce que j'ai l'impression que le grand public est un peu mélangé. Nous, en tout cas, du moins, je vais parler pour moi, j'ai toujours associé les soins palliatifs à la fin de vie, à quelques jours à vivre. Tandis que ce que l'on apprend, et d'une part chez Palliaco, et aussi dans votre livre, c'est que parfois, les soins palliatifs, ça peut durer sur une bien plus longue durée. C'est quoi des soins palliatifs?
Alors, les soins palliatifs, c'est vraiment l'ensemble de tous les services qui vont aider la malade et la famille à bien vivre le temps de la maladie. Et ça signifie seulement que la période des traitements dits curatifs sont terminés, mais s'ouvre maintenant la période des soins palliatifs. Alors, c'est-à-dire qu'on peut même recevoir de la chimio palliative, de la chimiothérapie, on peut recevoir de la radiothérapie, on peut, alors d'autres services et aussi beaucoup les services psychosociaux. Alors, d'être soutenu. Et c'est dans cette lignée-là que s'inscrit des services de Palliaco. Alors, tout l'aspect de soutenir.
Oui. Et dans votre livre, France, vous abordez aussi des approches qui seraient complémentaires. Est-ce que ça peut contenir dans la phase palliative?
Oui, certainement. Quand on pense à la musicothérapie, l'aromathérapie.
Parler du Reiki aussi.
Oui, la méditation, la méditation qui est si importante, le yoga. D'ailleurs, il y a même aussi l'art-thérapie qui est de plus en plus intégrée au niveau des soins palliatifs. Moi, vous le savez, je suis membre du conseil d'administration de la résidence de soins palliatifs de l'Ouest de l'île. Et justement, dernièrement, Mme Delard, la directrice, a donné une entrevue puis elle insistait beaucoup sur l'importance de l'art-thérapie où les gens peuvent s'exprimer autrement. exprimer leurs peurs, leurs craintes et aussi avoir des liens avec la famille à travers l'art thérapie. C'est intéressant, hein, n'est-ce pas?
Oui. C'est une période aussi où, j'imagine, la relation avec son soignant devient très importante. France, vous disiez, bon, c'est une période où il faut se questionner. Qu'est-ce que je veux? Je veux ma fin de vie de quelle façon? Évidemment, on l'exprime à notre famille, à notre proche aidant. Il faut en parler aussi avec son médecin et l'équipe soignante.
Absolument, absolument. D'ailleurs, dès le départ, il faut savoir, il faut connaître nos options de soins, il faut comprendre qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que j'ai bien compris ce que le médecin m'a dit, est-ce que j'ai besoin d'informations supplémentaires. Et quand la situation évolue et qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment de guérison possible, c'est là qu'il faut se questionner. Est-ce que les traitements que je subis me causent plus de tort que de bien?
Ouais.
Hein? C'est la bonne question, là, à un moment donné. Et la valider auprès de l'équipe soignante, le médecin, et ensuite se demander est-ce que les soins de confort ne répondraient pas davantage à mes attentes à cette étape-ci là, de mon cheminement.
Je veux que l'on parle aussi, parce que le temps file et on va bientôt devoir se quitter, mais bon, soins palliatifs, phase palliative amènent à cette fin de vie, qu'on on va nommer les vrais mots, la mort, donc... On apprivoise. Est-ce que c'est possible d'apprivoiser sa fin de vie, celle de notre proche? Allons-y avec Louise pour commencer.
Vous savez, on dit souvent que les bénévoles en soins palliatifs, une de leurs premières motivations, c'est de s'apprivoiser à notre propre mort. Alors, c'est une belle façon de faire du bénévolat en soins palliatifs pour être face à la mort. Oui, je pense qu'on peut s'apprivoiser. Oui. Nous, entre autres, on fait faire une visualisation à nos bénévoles lors de la formation et on leur fait visualiser leur propre mort. Comment ça se passe? Oui. Où je suis? Comment je me sens? Avec qui? Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis dans le domaine depuis plusieurs années et je fais toujours cette visualisation avec les bénévoles et personnellement, j'ai beaucoup évolué dans ma façon de vouloir voir ma fin de vie.
France, l'expérience que vous avez vécue auprès de votre mère, ça vous a modifié de quelle façon?
Bien, je pense que ça m'a rapproché de ma propre mort, c'est certain. Mais j'ai pas peur, moi, de la mort. Je pense que c'est un phénomène naturel. Je pense qu'il faut se dire que ce n'est pas la vie qui s'estompe, c'est la durée de vie à la fin. Puis il faut vraiment miser sur des relations authentiques, affectueuse avec nos proches. Je pense que c'est vraiment ça la clé. J'aimerais vous lire un petit texte, c'est une phrase là, de Joanne de Montigny qui a écrit un livre extraordinaire. « Le vide que peut représenter la mort n'est pas le néant. Il sert de passerelle entre le connu et l'inconnu à découvrir. La peur est réelle, mais la réalité se charge de la chasser au moment où la personne franchit le mur entre la vie et l'autre versant. » On doit absolument s'accrocher à cette idée de la découverte à venir pour que la curiosité triomphe de l'anxiété.
Encore de l'espoir, France.
Oui, absolument.
Ce livre-là est un outil formidable quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants concret. Et je pense que c'est ce qui manque aux proches aidants, aux familles qui sont touchées par l'épreuve d'une maladie grave. C'est le concret, c'est le pratico-pratique. J'imagine que c'est un espace dans la vie où parfois l'énergie et la fatigue... Bon, l'énergie n'est pas là, la fatigue prend de la place et de rallier toutes les informations, ça peut faciliter la vie de ses proches aidants. En terminant, un conseil peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui vivent ce genre d'épreuve, qu'ils soient des gens aidés ou des proches aidants. France?
De ne pas s'isoler.
Louise, allez-y. Allez-y,
moi,
Louise.
C'est évident que pour moi, c'est ne pas s'isoler. Vous l'avez dit tantôt, c'est vraiment important. Prendre le téléphone et appeler. Appeler un proche, appeler un ami ou appeler un organisme comme Palliaco. Il y en a partout à travers le Québec.
Oui. Palliaco.org, on glissera sur notre site. France, le mot de la fin.
Moi, je dirais communiquer. Ne pas s'isoler, je suis bien d'accord. Et conserver l'espoir.
Oui. Louise Lefebvre, vous êtes coordonnatrice du côté de Palliaco, France Cardinal Remette, auteur « Quand la vie se fragilise », un guide pour vous et vos proches aidants chez Multimonde. Merci à vous deux. Je pense que ce serait une belle rencontre. Il faudrait la créer, cette rencontre entre vous deux, parce que vous êtes deux personnes formidables et vous avez deux très, très belles visions. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vusevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Geneviève Paquette, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes coordonnatrice des activités sportives et en développement du réseau FADOC et à quelques jours de ces Jeux FADOC qui débutent le 9 mai et ce jusqu'au 14 mai prochain. C'est la 19e édition cette année, Geneviève. Qu'est-ce qui explique le grand succès de cet événement?
En fait, ça fait déjà 19 éditions. Les gens connaissent bien notre événement. On a beaucoup de gens parmi nos membres qui sont inscrits. On a aussi des gens non-membres. On recrute beaucoup de gens à travers Montréal, mais aussi les régions voisines s'intéressent aussi à nos Jeux FADOC. Donc, on essaie le plus possible de varier nos activités. C'est probablement une des raisons. Il y a vraiment pour tous les goûts. Donc, je dirais que ça doit les intéresser pour la variété.
Oui, c'est une rencontre de plusieurs points qui fonctionnent bien et qui peuvent plaire à plein de personnes. Geneviève, est-ce que les Jeux FADOC, ça s'adresse qu'à vos membres?
Non, c'est ça. Les Jeux FADOC s'adressent autant à nos membres qu'à nos non-membres. Donc, si quelqu'un a 50 ans et plus et non-membre FADOC, ils peuvent tout de même s'inscrire aux Jeux. Par contre, le tarif est différent, mais on essaie vraiment de rendre ça le plus accessible possible.
Donc, le seul critère, c'est d'avoir 50 ans et plus. Est-ce qu'il faut être en forme?
En fait, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. On fait, par exemple, des catégories dans chacune de nos disciplines pour différencier justement les personnes qui sont, on pourrait dire, athlètes, qui sont plus de compétition, et les personnes qui font de façon irrégulière de l'activité physique, qui viennent vraiment pour le plaisir. Donc, ils sont peut-être un peu plus débutants, intermédiaires. Donc, on essaie de différencier ça dans chacune des disciplines pour que tous les gens puissent s'inscrire et que ceux qui veulent de la compétition, du challenge, puissent avoir accès.
Oui. Et les gens qui ont envie d'accéder à un niveau de compétition un petit peu plus élevé peuvent aller... Après, l'événement peut se poursuivre, c'est-à-dire en septembre, là, il y aura les Jeux provinciaux, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est exact. En septembre, suite aux Jeux régionaux de Montréal, les régions qui vont avoir gagné dans chacune de leurs disciplines vont être représentées aux Jeux provinciaux de la FADOC en septembre.
Ah oui, ça peut être assez chouette, ça, de compétitionner dans cet objectif-là.
Oui, oui, en effet.
Quelles sont les disciplines qui sont proposées, Geneviève?
Donc, on a plusieurs disciplines. On a, par exemple, de la course, de la marche, du tennis, du tennis de table en simple et en double, du volleyball, des petites quilles, du badminton, de la balle molle, de la pétanque, de la natation et du golf. Donc, 11 disciplines. Ça fait beaucoup.
Oui, pour tous les goûts. Est-ce que vous avez les chiffres sous les yeux, Geneviève, à savoir quelle discipline est la plus populaire?
Mais je vous dirais que cette année, on peut observer une augmentation au niveau de la course, de la marche, du volleyball et de la pétanque. Mais plusieurs disciplines sont populaires. Le tennis est toujours populaire. On fait ça au lieu, notre lieu de discipline est le stade Uniprix.
Oui,
donc,
oui, oui.
Évidemment, il y a beaucoup de gens passionnés par le tennis qui s'intéressent à venir compétitionner cette journée-ci.
Geneviève, avez-vous l'impression que nos personnes aînées sont de plus en plus actives depuis les dernières années?
Je dirais que oui, de façon régulière, et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent une activité physique à leur goût, que ce soit de façon un peu plus récréative ou un peu plus compétitive, si on veut, ça, il y a pour tous les goûts, mais je le remarque à travers les gens qui s'inscrivent à nos jeux. On a une augmentation, donc je crois que les gens, oui, s'intéressent davantage à l'activité physique.
Et tout ça a bien sûr des bienfaits pour leur santé. Est-ce que vous avez eu des témoignages, à savoir, des améliorations dans les modes de vie ou encore des bienfaits très concrets pour la santé des personnes âgées autour de vous, de par vos membres, Geneviève?
Mais il y a plusieurs de nos membres qui participent régulièrement. Là, nous, c'est un événement, mais je sais que plusieurs de nos membres en font à l'année longue. Et c'est des gens qui sont quand même actifs, qu'on peut voir aussi qu'au niveau de la santé, c'est vraiment, ça les aide vraiment pour au niveau du bien-être. Mm-hmm. Que ce soit au niveau de se sentir bien en soi, mais aussi au niveau de la santé, ça paraît. On le voit chez nos membres qui ont débuté il y a quelques années et qui sont rendus des réguliers, puis on voit chez les nouveaux qui s'essaient dans une nouvelle discipline. Là. Ouais. On voit l'évolution, disons.
Et peut-être parmi eux, des gens qui n'ont jamais beaucoup bougé, qui n'ont pas été très actifs et qui, là, avec l'âge, ont pris ce goût-là.
Exactement. Il y en a plusieurs qui ont pas nécessairement été les gens les plus actifs dans leur vie, mais qui ont décidé, après la cinquantaine, qui voulaient bouger, qui voulaient trouver une activité physique. Et il n'est jamais trop tard. Il faut juste y aller chacun à son rythme. Vérifie toujours avec le médecin. Parce que il faut même s'assurer de ça. Mais sinon, il y en a plusieurs parmi mes participants qui sont pas des athlètes depuis 20 ans, là, puis ils participent à des activités tout de même.
Ouais. Et ils se préparent en s'entraînant quelques semaines avant les Jeux FADOC, Geneviève, ou pas nécessairement?
La plupart d'entre eux, oui. Okay. Il y en a quelques-uns qui non, ils viennent, comme je vous dis, qui viennent un peu plus pour le plaisir, ouais, de façon participative, peut-être moins, mais il y en a quelques-uns qui en jouent déjà régulièrement, donc ils se préparent avant. On en a quand même quelques-uns de compétitifs qui souhaitent gagner une médaille.
Et qui s'entraînent à l'année. On ne peut plus s'inscrire, les inscriptions sont terminées pour les Jeux FADOC, mais on peut quand même décider d'aller encourager les gens au stade Uniprix du 9 au 14 mai, Geneviève?
Oui, bien sûr, les gens sont bienvenus à venir. Parfait. Comme spectateur durant la semaine du 9 au 14 mai.
On glissera le lieu sur notre site web. Geneviève Paquette, coordonnatrice des activités sportives et en développement du réseau FADOC. De très bons jeux FADOC à vous, Geneviève, et vos membres.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'est Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur les médias sociaux, Twitter, Facebook. Et puis nous, on se redonne rendez-vous très bientôt. Portez-vous bien d'ici là, profitez du soleil, mettez de la crème solaire. Bye bye!